le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la culture dans la campagne présidentielle, vous avez dû le remarquer, le sujet est totalement absent des débats. Jadis, il était central, naguère encore périphérique, aujourd'hui donc totalement marginalisé. Comme si la France, qui s'est longtemps pensée comme une puissance de premier plan culturel, était passée à autre chose de plus important, de plus régalien, entre guillemets. Les candidats ont évidemment des propositions, mais chacun reste dans son couloir, dans une campagne invisible en la matière. Pourtant, notre pays fut en pointe dans le financement du cinéma, dans la réinvention du musée moderne, la défense de l'exception culturelle, le maintien du statut d'intermittent, le droit d'auteur dans un monde globalisé. Alors que s'est-il passé? Quelle politique culturelle pour le prochain quinquennat? On en parle jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Les invités du téléphone sonne, Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, soutien d'Emmanuel Macron, bonsoir. Patrick Bloch, député PS en charge de la culture pour Benoît Hamon, bonsoir.
Bonsoir.
Et on termine ce tour de table avec Hervé Guémard, député Les Républicains de Savoie en charge de la culture pour François Fillon. Monsieur le député, bonsoir.
Bonsoir.
Que s'est-il passé?
Écoutez, pour ma part, je suis moins pessimiste que vous. Je ne pense pas qu'on ne parle pas de culture dans cette... On n'en débat pas, mais on en parle. Tous les candidats, en tout cas les meilleurs, ont élaboré un programme culturel. Un programme culturel souvent d'ailleurs de bonne qualité. La presse s'est emparée également du sujet. Plusieurs grands titres de la presse nationale ont invité les candidats à exposer leur projet ou leurs propositions. Et cette émission elle-même démontre bien qu'on est dans le cadre du service public capable de parler de la culture.
4 heures de débat hier à la télévision, je pense qu'il a dû en être question 10 ou 20 secondes.
Mais c'est parce que les organisateurs du débat n'ont pas inscrit ce sujet-là, ni celui de l'éducation d'ailleurs, à l'ordre
ni
du jour de leur
ni
l'environnement à l'ordre du jour de leur émission. Je crois qu'il faut que les journalistes, que la presse, que les médias également fassent l'effort d'interroger les candidats sur ce sujet, de les pousser dans leur retranchement. Sais que le candidat que je soutiens a une conviction quant à l'action culturelle de l'État, qu'il a un projet et qu'il souhaite le mettre en œuvre avec sincérité, avec efficacité.
On va voir si c'est un projet ou des propositions, mais ça c'est valable pour tout le monde. Hervé Guémard, est-ce que vous pensez, ou je me trompe peut-être, disait Jean-Jacques Ayagon, que le débat sur ce qui a été quand même longtemps l'une des prérogatives absolues du président de la République, et même de la République en elle-même, le débat là, quand même, s'est évaporé.
Je suis assez d'accord avec vous, parce qu'aussi bien dans la primaire de droite et du centre que la primaire de gauche, ou que dans l'élection que nous vivons actuellement, la culture n'est pas tellement à l'ordre du jour. Alors c'est vrai que chaque candidat, et celui que je soutiens, François Fillon, de longue date, a fait des propositions très précises en matière culturelle, et on peut regretter cette absence de débat. Ceci étant, je mettrai un bémol, parce que par rapport aux périodes historiques auxquelles vous faisiez référence, il s'est passé quelque chose de très important, qui est la décentralisation. Bon. Et aujourd'hui, les trois quarts des crédits publics pour les politiques culturelles viennent des collectivités territoriales, avec des élus locaux, les maires, les élus régionaux et départementaux qui sont très impliqués. Donc peut-être que la culture est moins sacralisée dans le verbe, mais au quotidien, dans nos territoires, on a des politiques culturelles vivantes. Mais je pense effectivement, en termes d'incarnation, c'est qu'un président de la République doit porter avec lui un grand projet culturel. La culture pour vivre, comme disait Jacques Rigaud, et culture et courage, comme disait Malraux.
Pour le dire autrement, et je vais passer évidemment la parole à Patrick Bloch, est-ce qu'on a ce que vous venez de décrire, Hervé Guémard, à savoir de la culture partout, et ce sont les collectivités locales qui font le travail d'animation et de financement de la culture, mais un ministère de la culture extrêmement faible aujourd'hui. Est-ce que c'est pas l'échelon national qui manque de vision, de conviction, et qui finalement, a accepté le statut de ministère faible?
Alors seul Jean-Jacques Ayagon a été ministre de la Culture, il a sans doute des idées sur la question, mais c'est vrai que ce ministère aujourd'hui paraît plus faible qu'il n'a été, notamment sous ce quinquennat avec la baisse drastique des crédits, ce qui était quand même une première depuis des décennies.
Une première
et
à gauche.
Et puis le sentiment que qu'à côté des grands établissements publics culturels, le ministère a du mal à trouver sa place.
Patrick Bloch, votre sentiment. Monsieur l'ancien ministre de la Culture.
Sur le temps de parole de Patrick Bloch, je voulais simplement vous dire que il faut également savoir ce à quoi on croit, ce qu'on veut. Pour ma part, je suis convaincu que même si les collectivités locales ont pris de très très larges responsabilités et ont en général bien accompli leur mission, le rôle de l'État reste un rôle essentiel, c'est un rôle régulateur, planificateur, exemplaire.
Aujourd'hui encore. Et
bien sûr, je ne dis pas
même
que ça...
Même avec les tout petits bras du ministère de la Culture.
Bon, c'est la raison aussi pour laquelle j'appelle de tous mes voeux un ministère ayant des attributions, des compétences, un périmètre plus large. Alors il est vrai qu'au cours des dernières années, le ministère de la Culture a été fragilisé par la succession de trop de ministres dans le cadre du quinquennat. 3 ministres pour 5 ans, c'est beaucoup, quelle que soit la valeur d'ailleurs des femmes qui ont été chargé de ce ministère. Mais on ne peut pas conduire une action sur le long terme, une action réellement visionnaire et efficace, hein, dans une telle précarité.
Patrick Bloch, sur l'absence de débat et les propositions de votre candidat, Benoît Hamon.
Le fait qu'on débatte à votre invitation aujourd'hui montre que le deuxième public joue et continue à jouer fort heureusement un rôle majeur en ce domaine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Benoît Hamon s'est engagé fortement pour maintenir et son périmètre et son financement. Et je voudrais pas qu'on intériorise trop le fait que la culture serait absente de ce débat. J'ai plutôt tendance à rejoindre Jean-Jacques Ayagon parce qu'il y a beaucoup de débats qui sont organisés. On se retrouve régulièrement à débattre des propositions des candidats que nous soutenons, parce que les médias habituels, notamment la presse écrite, participent de ce débat, parce que mon candidat Benoît Hamon a consacré justement, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, la minute 30 de carte blanche qu'il avait lors des primaires entre les deux tours, donc quand il était contre Manuel Valls.
Une minute donc, 30 une en minute plusieurs 30, mois.
Oui, mais c'est la carte blanche, parce qu'il y a un phénomène d'éditorialisation, c'est-à-dire que les débats sont éditorialisés sans que la culture ne soit intégrée. Benoît Hamon, je crois que c'est pas le seul, s'est rendu aux Victoires de la Musique et au Salon du Livre, et à travers les propositions que je porte, comme d'ailleurs sans doute Hervé Guémard et Jean-Jacques Ayagon, la culture est présente dans le projet, parce que c'est une élection présidentielle et qu'elle se place, que cette élection présidentielle a lieu en France.
Alors avant d'ouvrir le standard de France Inter, un autre tour de table, est-ce que vous pourriez nous décrire, Jean-Jacques Ayagon, quel est le projet pour la culture d'Emmanuel Macron? J'ai bien dit le projet, pas les propositions, on va pas faire le catalogue. Est-ce qu'il y a une philosophie, une conviction, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être traduit en quelques mots?
Écoutez, il y a une conviction totale, tout d'abord sur la nécessité pour l'État de s'engager en faveur du développement culturel de notre pays. Il y a une conviction totale à l'égard de la qualité, du financement, de la constance d'une politique culturelle. Et il y a également une constatation, c'est qu'historiquement, nos politiques culturelles sont constituées de 3 grands domaines d'intervention, en faveur du patrimoine, en faveur de la création, en faveur de la diffusion, du partage de la culture. Une constatation, c'est que les politiques en faveur du patrimoine et de la création sont à peu près stabilisées, bien que pour le patrimoine, elles aient parfois manqué de suffisamment de moyens, mais qu'une grande politique fait encore défaut, est encore fragile dans le paysage culturel et politique de notre pays. Ce sont les politiques en faveur de l'accès de tous à la culture. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron s'est fixé comme priorité de s'appuyer sur l'éducation nationale, sur l'école, sur le réseau des établissements culturels de l'État, sur une coopération franche avec les collectivités locales, pour faire en sorte que demain, chacun des Français, chacun des jeunes Français notamment, et tous ceux qui vivent d'ailleurs dans l'espace de notre pays, qu'ils soient Français ou non, puissent, dans des conditions égales et dans des conditions dignes, accéder à la culture, à la curiosité à l'égard de la culture, et ensuite à l'intimité avec la culture.
Hervé Guémard, même question pour François Fillon, comment décrire le projet, la philosophie de ce projet?
Le fondement du projet de François Fillon, c'est de dire qu'évidemment la culture, c'est la condition de la liberté grande dont parlait Julien Gracq, l'épanouissement individuel et la lutte contre la barbarie qui rôde toujours, on le voit bien dans le monde dans lequel nous sommes. La culture, c'est lutter contre la précarisation, c'est aussi permettre à chacune et chacun d'entre nous de s'intégrer dans une société souvent violente. Alors, 3 grands axes. D'abord, réduire la fracture culturelle, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à la culture, tout le monde ne maîtrise pas la langue, tout le monde n'a pas accès aux enseignements artistiques, aux enseignements musicaux. Deuxième axe, c'est évidemment défendre et promouvoir la liberté de création et respecter le droit d'auteur et la rémunération de la création qui sont remis en cause à l'ère numérique. Et puis enfin, faire de la culture ce que c'est déjà, c'est-à-dire un formidable atout de développement pour
c'est
notre
une
pays,
économie.
Et
c'est
y
une
compris
économie.
De développement économique et touristique.
Patrick Bloch, même question pour Benoît Hamon, philosophie de ce projet.
La culture partout, la culture par tous, la culture pour tous, la culture partout, parce que encore aujourd'hui, il faut lutter contre les inégalités territoriales, et c'est le rôle essentiel de l'État, d'où la proposition que les concours publics sur la durée du quinquennat soient portés à 1% du PIB, pour que les collectivités territoriales se réengagent parce que leur rôle est majeur. C'est la culture par tous, c'est un souci particulier qu'il a exprimé notamment pour les auteurs et les artistes visuels, pour ces artistes indépendants qu'il faut traiter, parce que la question sociale croise la question culturelle et que fort heureusement, durant ce quinquennat, l'intermittence du spectacle a été pérennisée. Mmh. Et puis, c'est la culture pour tous, avec évidemment la place des arts à l'école, la possibilité d'avoir...
Ça fait consensus, hein, les arts à l'école.
Les arts à l'école, ça fait consensus, oui, parce qu'on dit souvent
un vieux
qu'une
sujet,
politique
hein.
culturelle, c'est d'abord l'éducation artistique et culturelle, avec évidemment, et pour Benoît Hamon, toute l'importance de l'éducation populaire. Et puis, évidemment, des propositions qui concernent aussi bien la place de l'art dans l'espace public que la défense du droit d'auteur au niveau européen. Et un attachement particulier, on sourit souvent avec sa proposition de créer un palais de la langue française parce qu'il considère qu'en France, on ne peut pas dissocier la culture de la langue.
Allez, on se dirige vers le standard. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci de mettre la question culturelle en débat. Effectivement, ça manque cruellement dans cette campagne. Plusieurs choses, d'une part signaler, je faisais partie de ce syndicat, mais c'est pas du prosélytisme, que le Syndéac, grande organisation professionnelle du spectacle vivant, a mis en place l'artdéclare.fr, un site qui propose 70 propositions pour l'art et la culture, ouvertes au débat citoyen, oui. Et surtout à destination évidemment des candidats, donc c'est un outil intéressant pour le débat démocratique autour de la question culturelle, qui est un enjeu dont chacun devrait se saisir davantage. De mon point de vue, il faudrait que le futur président sorte un petit peu, ça a été amorcé dans ce quinquennat, de la vision architecturale de la culture, c'est-à-dire l'idée que un président doit forcément marquer dans la pierre son quinquennat ou son septennat par le passé. On n'est plus forcément dans ce temps-là, ni pour des questions financières, ni pour des questions purement de fonds politiques. Il me semble que la question du sort des artistes dans la société, de leur présence territoriale et auprès des plus jeunes, sont vraiment des enjeux on ne peut plus important et peut-être à privilégier dans le futur mandat présidentiel à l'accomplissement d'un grand monument culturel qui est un peu plus facile, on va dire, à mettre en œuvre peut-être, au-delà des enjeux économiques. Mmh. Voilà un petit peu les réflexions que je soumets à votre débat.
Et merci à vous, Fabien, d'intervenir et d'ouvrir donc ce téléphone sonne sur le roi bâtisseur, en tout cas le président bâtisseur. On n'est plus dans cette époque-là, Jean-Jacques Ayagon.
C'est une grande tradition qui a fait honneur à notre pays. Georges Pompidou l'a inauguré, François Mitterrand lui a beaucoup donné, Jacques Chirac... C'est un appuyé sur cette tradition, mais néanmoins, il aura réalisé le musée du Quai Branly, ouais. Jacques Chirac. Et c'est vrai que les deux derniers présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont marqué moins d'intérêt à l'égard de cette grande tradition de la France et de la République. Alors, je crois bien, je suis persuadé, je sais qu'on ne peut pas réduire une politique culturelle à une politique de grands travaux. Néanmoins, je pense qu'à chaque fois que c'est nécessaire pour le rayonnement de notre pays, pour la satisfaction du service public de la culture, il faut savoir réaliser les équipements, les grands équipements qui sont nécessaires à la vie
parce
culturelle.
Parce que la pyramide du Louvre, c'était pas un geste délirant d'hubris politique, c'était aussi porter une vision extraordinairement moderne de ce que doit être un musée. Aujourd'hui, à l'heure des flux touristiques mondiaux.
Bien sûr, et le Grand Louvre désormais fait honneur à notre pays. C'est une très grande réalisation.
Modèle.
La construction de la Philharmonie, qui a été extrêmement laborieuse, parfois critiquée, aujourd'hui c'est un véritable succès. Le Centre Pompidou, c'est une institution vraiment visionnaire qui a réconcilié nos concitoyens avec la culture de notre temps. Donc, je crois qu'à chaque fois que c'est nécessaire, il faut que l'État sache davantage se poser encore la responsabilité à l'égard du tissu de ces grandes institutions. Je pense par exemple qu'aujourd'hui, il faut que l'État, que le ministère de la Culture sache s'interroger sur la situation du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou, immense collection, mais collection dont la visibilité est très faible compte tenu du confinement de cette collection dans un bâtiment qui est devenu trop étroit. Mais il faut aussi que l'État sache penser l'aménagement culturel du territoire, ne pense pas qu'à Paris, sache penser à la totalité des régions, ou bien en invitant ces grands établissements à devenir des agents de la décentralisation, ça a été fait avec le Centre Pompidou à Metz et le Louvre à Lens, ou avec le MUCEM à Marseille. À l'époque, c'était à l'initiative de Catherine Tasca, mais que cette vision du rôle des institutions ne s'éteigne
pas. Donc
il faut
construire quand on a quelque chose à dire et
mais
à faire.
Il faut dire des choses, mais par ailleurs, il faut également faire autre chose, et notamment prendre à bras le corps cette grande question dont on parle depuis longtemps, de l'éducation culturelle, de la familiarisation avec les pratiques culturelles,
ce
que certaines collectivités locales font d'ailleurs très très bien, et je salue tout particulièrement le travail d'Hervé Guémard dans son département, dans le département de la Savoie.
Il a la parole, Hervé Guémard.
Alors, François Fillon a un grand projet, mais c'est un grand projet européen. C'est-à-dire de proposer à nos partenaires de faire un grand musée ou un grand espace culturel, parce que l'Europe a besoin de l'affirmation de ses racines culturelles. Donc il compte proposer, s'il est élu, ce projet à nos partenaires européens, un grand projet qui pourrait être à Strasbourg. Et puis également, dans la même veine, proposer un Erasmus pour les artistes. Qui n'existe pas aujourd'hui. Tout le monde se félicite du succès d'Erasmus pour les étudiants, et c'est formidable, mais pour les artistes, quelle que soit leur spécialité, ce serait formidable de mettre en place Erasmus. J'ajoute qu'en France, nous avons un gros problème sur le patrimoine, puisque les crédits du patrimoine ont toujours été les variables d'ajustement au budget du ministère de la Culture. Donc François Fillon,
de la droite également.
Oui, bien sûr. Mais François Fillon propose que nous montions à 400 millions d'euros par an les crédits pour le patrimoine. Ils sont actuellement d'un peu plus de 320 millions, je crois. C'est absolument indispensable compte tenu de la dégradation de notre patrimoine, qui doit être un patrimoine restauré, bien sûr, mais surtout un patrimoine vivant. Et notamment, nous avons beaucoup d'exemples, y compris d'élus locaux qui, dans de petites ou moyennes communes, sont arrivés à faire revivre leur commune de cette façon.
Patrick Bloch, pour Benoît Hamon, sera-t-il un bâtisseur s'il est élu ?
Alors, j'ai évoqué un grand projet qui lui tient, c'est le Palais de la langue française. Mais
vous le mettez où ?
Mais justement, j'ai posé la question à Benoît Hamon, il a dit « pas à Paris ». Voilà, et c'est un député parisien qui vous parle. Dans l'idée, par rapport à la question que vous posez, qu'il faut plus que jamais évoquer cette question centrale de l'accès de toutes et tous à la culture. Parce que il y a de très beaux équipements culturels, de très belles institutions qui ont été créées, mais encore, il y a encore un trop grand nombre de nos concitoyens qui ne franchissent pas les portes de ces grands établissements culturels. Et je voudrais prendre appui sur un rapport qui a été remis récemment au Premier ministre Bernard Cazeneuve par Yves Dauge, que nous connaissons les uns et les autres, qui a fait une œuvre magnifique pour l'architecture et le patrimoine, et qui pose comme enjeu déterminant pour la France aujourd'hui, c'est la rénovation, la réhabilitation des centres-bourgs, qui dans nombre de petites et moyennes villes sont aujourd'hui totalement dévitalisés, avec en plus,
du patrimoine.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Hervé Guémard à l'instant, sont des éléments patrimoniaux totalement déterminants. Après tout, si Benoît Hamon, élu président de la République, est le rebâtisseur ou le revitalisateur, si j'ose ainsi m'exprimer, des centres-villes, des centres-bourgs, des villes petites et moyennes en France, je pense que c'est un très grand et très beau projet culturel.
Hervé Guémard, sur ce point.
Je voudrais prolonger ce que dit Patrick Bloch au-delà des programmes électoraux des uns et des autres. Je pense que ce qui nourrit et ce que provoque le totalitarisme, c'est toujours la laideur et la peur. Bon. Et dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de beauté et d'équilibre. Et je suis frappé que nous avons laissé, depuis un demi-siècle, se massacrer notre paysage, nos patrimoines, nos centres-bourgs, nos entrées et sorties de ville, qui sont absolument horribles. Vous savez, il y a cette chanson de Reggiani, Les loups sont entrés dans Paris, où il dit « Le ciel redevenait sauvage et le béton bouffait le paysage ». Bon, on a vraiment cette impression-là. Et notre pays, la France que nous aimons, qui est une terre d'équilibre, où le paysage change tous les 30 kilomètres, comme disait Fernand Braudel, ne peut pas laisser les choses comme ça. Alors je sais que c'est un travail difficile. Il faut mettre les architectes, les urbanistes, les élus locaux, tous les documents d'urbanisme.
Il ne faut pas transformer les villages en musées. Hein,
voilà, non. Mais je pense qu'on a une vraie cause nationale sur la beauté.
Je note juste une parenthèse, il n'y a plus de clivage gauche-droite aujourd'hui sur le patrimoine. Il y en a eu un par le passé, la gauche du côté de l'art vivant, la droite du côté du patrimoine.
Ça, c'est une idée totalement
ça fait consensus aujourd'hui.
Et qu'on voit l'évolution des crédits du patrimoine sur ces 20 dernières années, je confirme et je suis dans l'idée.
C'est Patrick Bloch qui
parle. Je pense que ça nous réunira tous qu'il faut augmenter les crédits du patrimoine, c'est une évidence. Mais on voit que les crédits du patrimoine n'ont pas bénéficié, notamment quand la droite était au pouvoir d'un soutien particulier.
Jean-Jacques Ayagon, un mot là-dessus, et puis on retourne au standard.
Une remarque d'ordre général, je crois qu'il faut bien dire à nos auditeurs et à nos concitoyens que si nous ne sommes pas d'accord sur tout, ça ne veut pas dire que nous ne sommes d'accord sur rien. Et je crois que l'un des grands miracles de la politique culturelle française, c'est qu'elle a suscité une sorte de continuité et de désir partagé. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de nuances non plus, qu'il n'y a pas des engagements plus ou moins convaincus, mais plus personne aujourd'hui ne remet en cause, comme c'était le cas dans les années 80-90, la légitimité de l'action culturelle de l'État. Je me souviens de l'époque où Marc Fumaroli se faisait le héros, avec le soutien d'ailleurs de beaucoup de personnalités de droite, se faisait le héros d'une totale libéralisation.
L'État culturel.
Aujourd'hui, nous savons tous que dans un pays marqué par des fractures très nombreuses, fractures territoriales, fractures sociales, fractures culturelles, la politique culturelle est l'un des instruments du rétablissement de la concorde civile et de la paix entre nos concitoyens. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes réunis, en tout cas, dans cette conviction, avec des nuances, naturellement.
Denis, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir. Donc, j'aimerais pouvoir m'adresser à Hervé Guémard sur le programme de François Fillon. François Fillon propose de développer le mécénat, les souscriptions et le partenariat public-privé. Donc, en filigrane, en clair, c'est un total désengagement de l'État. Je vois pas là une vision très égalitaire de l'accès à la culture pour tous.
Merci Denis pour cette question. Hervé Guémard et nos autres invités vous répondent.
Alors, l'auteur du développement du mécénat, il est devant nous, puisque c'est une grande loi qu'a portée Jean-Jacques Ayagon et que personne n'a remis en cause. Ce qui montre bien qu'elle fait partie.
Il n'y a plus d'argent, donc on ne peut pas la remettre en cause.
Elle fait partie du patrimoine culturel français. Deuxième remarque, François Fillon propose à périmètre constant que le budget de la culture demeure ou atteigne 1% des dépenses de l'État, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années, mais ce qui était le cas, je le rappelle, quand il était Premier ministre, pendant 4 ans sur 5 de François Fillon Premier ministre, le budget culture a fait 1% du budget de l'État. Et troisièmement, il faut évidemment favoriser, à côté des financements publics, des financements privés. Quand on voit ce que font certains grands mécènes ailleurs en Europe ou dans le monde, ce que certains grands mécènes font déjà en France.
Ah bah, les bâtisseurs, c'est eux
voilà,
aujourd'hui.
Pour l'instant,
c'est
eux. Heureusement qu'ils sont là. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout avoir cette vision schématique entre
mais
public
et
privé.
On peut se poser tout de même la question de l'importance des financements privés à un moment justement où la puissance publique est affaiblie, Jean-Jacques Ayagon. L'argent privé a un effet. On ne peut pas le nier.
Quand j'ai proposé au Parlement en 2003 de voter la loi sur le mécénat et les fondations, j'ai bien précisé que dans mon esprit, dans l'esprit du gouvernement dont je faisais partie, gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, le développement du mécénat ne signifiait surtout pas le désengagement de l'État, le désengagement financier, budgétaire de l'État. Dans mon esprit, le développement culturel de notre pays, c'est
l'action de l'État, l'action des collectivités locales et l'action de partenaires privés, de mécènes, s'ils s'en trouvent ou en faveur des initiatives de l'action publique ou en faveur éventuellement d'initiatives qui leur sont propres. Mais je voudrais rassurer notre auditeur sur ce point. Je crois que le développement du mécénat ne doit en aucun cas justifier le désengagement de l'État. Ce serait une triste chose.
Mais de fait aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas le cas? Est-ce que les expositions peuvent se boucler sans financement privé? Est-ce que les collections peuvent circuler s'il n'y a pas l'apport substantiel d'un certain nombre de mécènes, alors qu'auparavant c'était l'État qui en avait la charge? Est-ce que les expositions seraient les mêmes si elles n'étaient financées que sur fonds publics? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre manière d'organiser les musées, de faire des expositions blockbuster, dès lors que les financements, ils viennent d'où ils viennent?
Écoutez, sincèrement, je pense que aucun établissement culturel respectable, que ce soit la Réunion des musées nationaux aujourd'hui, le Centre Pompidou, le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly, ne programme d'exposition sur la seule considération de la facilité économique. Mais quand on est à la tête d'un établissement et qu'on a la possibilité d'attacher à la réalisation du projet un mécène, c'est tant mieux, parce qu'on augmente globalement sa capacité à agir et à programmer. Et donc, il faut échapper à cette vision antagoniste de l'action publique et du mécénat. L'action publique, elle a sa nécessité, elle a sa dignité, elle est irremplaçable. Mais par ailleurs, si des partenaires privés, des particuliers ou des entreprises concourent au développement de projets culturels, c'est tant mieux. Regardez, au cours des dernières années, à plusieurs reprises, nos grands musées ont pu acquérir des œuvres importantes en faisant appel au mécénat des particuliers ou au mécénat des entreprises. D'ailleurs, grâce à une disposition de la loi de 2003, la loi musée de 2002 et la loi mécénat de 2003, qui aménagent des réductions importantes en faveur de ceux qui consentent des libéralités en faveur de l'acquisition d'œuvres d'art. Et personne n'a jamais remis en cause cette disposition, ni un gouvernement de droite, ni un gouvernement de gauche. Mmh.
Patrick Bloch, je sais que vous êtes très sourcilleux sur la question. Est-ce qu'un mécène est un lobby?
Non, un mécène n'est pas un lobby. Et
pourquoi un mécène ne serait pas un lobby?
Non, mais la loi qu'évoquait Jean-Jacques Ayagon à l'instant et qu'il a portée, la loi de 2003, n'a effectivement pas été remise en cause malgré les alternances politiques, même s'il faut toujours avoir à l'esprit la phrase que j'ai souvent répétée dans des débats sur le mécénat, qui est la phrase de Jacques Rigaud, qui a joué un rôle essentiel en France pour le développement du mécénat culturel, et qui disait toujours, le mécénat ne doit pas assurer les fins de mois d'un État nécessiteux. Donc, il faut voir effectivement le mécénat, non pas en substitution de financement public qui sera en baisse, et c'est la raison pour laquelle Benoît Hamon dit d'abord « je veux porter les concours publics en faveur de la culture à 1% du PIB durant le quinquennat », mais voir les financements privés comme des compléments, la possibilité de faire plus, de faire mieux, et quand on parle financement privé, il y a un secteur économique de la culture, sans qu'on évoque forcément les industries culturelles.
C'est le seul espace où l'argent n'a pas d'odeur, le mécénat.
Non, c'est pas le problème.
Non, mais vous êtes extrêmement vigilant chez Benoît Hamon sur justement les financements politiques, les sources des financements, les différentes actions de lobbying. Donc là, on a un espace où l'argent privé coule à flot. Donc c'est pour ça que je vous pose la question de savoir si cet argent-là ne suscite pas des politiques bien particulières.
Quand, par exemple, Benoît Hamon s'engage pour soutenir ce qui se développe fortement en France avec de jeunes acteurs, qui est l'entrepreneuriat culturel, qui, dans nombre de secteurs, amène à ce que la France soit très performante, que ce soit le jeu vidéo, le design, les métiers d'art, l'édition, la liste est longue. Eh bien, à partir de là, il l'inscrit en cohérence avec ce qu'il a porté lui-même comme ministre, à savoir la loi sur l'économie sociale et solidaire. C'est de l'argent privé, mais on peut effectivement considérer que l'argent, lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche solidaire et d'une nature très différente.
Hervé Guémard.
Il faut poser la question à Madame Hidalgo. Elle est très contente qu'un mécène règle le problème du musée des arts et traditions populaires du grand Georges-Henri Rivière, qui a été dans une impasse.
C'est un symbole, je trouve, voilà, tellement caricatural.
Mais pourquoi caricatural ?
Mais parce que, comme vous le dites, c'est un mécène privé qui a la charge d'une fonction régalienne de l'État.
Monsieur de Morand, le musée en question...
Le musée régalienne de la ville de Paris.
Oui, voilà.
L'institution appartient à l'État, même si le foncier appartient à la ville de Paris. Donc c'est autant une décision assumée par l'État que par la, que par la ville de Paris. Mais je crois qu'à chaque fois qu'un mécène ou qu'un partenaire privé se mette à la disposition de l'accomplissement d'un projet culturel, il faut déontologiquement veiller à deux choses. Premièrement, qu'il n'est pas prise sur la programmation elle-même. La programmation doit rester la seule responsabilité de ceux qui dirigent ou animent
les comités scientifiques.
Et deuxièmement, que ce mécénat ne donne pas lieu à une ingérence dans les contenus. Alors ensuite, que le soutien permette la réalisation du projet dans des conditions plus faciles, c'est tant mieux. Et je crois que nos grands établissements, nos plus petits établissements, le Festival d'Avignon, qui est un lieu de la manifestation de la pensée critique sur la société, sur le monde, à travers le spectacle vivant, a des mécènes, a des partenaires, sans que ça n'enlève rien du tout à la liberté de programmation.
Pour aller dans votre
Patrick
sens,
Bloch, rapidement, et puis le
pour
standard.
Aller dans votre sens, il faut quand même avoir un élément de vigilance par rapport à une certaine forme de mécénat privé qui se développe aujourd'hui et qui, donc, en contrepartie de son engagement, s'attire en exclusivité un certain nombre d'artistes, aussi bien dans le domaine du spectacle vivant que dans le domaine des arts visuels, au détriment des institutions culturelles publiques. Donc je dis cela pour ne pas être naïf et pour aller dans une certaine mesure dans votre sens sur le fait que la vigilance s'impose par rapport à certaines dérives qu'on constate aujourd'hui.
Antoine, bonsoir.
Antoine.
Antoine était loin de son téléphone.
Non, ça y est.
Ça y est, alors bienvenue Antoine.
Bienvenue, merci. En fait, je suis un petit peu ému parce que j'ai 43 ans, j'écoute France Inter depuis que je suis tout petit. J'ai essayé des dizaines de fois d'appeler
le standard.
Et j'ai jamais réussi à passer sur l'antenne. Alors ça m'inquiète d'autant plus que c'est ce soir sur un sujet où la culture n'est pas assez présente dans la campagne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peu d'appels au standard ce soir?
Et vous êtes jusqu'à présent, c'est un sans faute, Antoine, pour une première intervention sur France Inter.
Ok.
Allez-y.
En fait, ma question était à Jean-Jacques Ayagon. En fait, j'étais intermittent du spectacle. En fait, j'étais au statut de l'intermittence du spectacle, n'étant pas un métier. Mais depuis, je me suis reconverti. Et à l'époque, quand j'étais intermittent, a eu lieu la réforme du statut des intermittents du spectacle par Monsieur Ayagon, il me semble. Donc, je voulais savoir si sa vision de la culture est toujours la même aujourd'hui qu'à l'époque.
Merci Antoine. Intervenez quand vous voulez au téléphone, sonne. Hein. C'est pas un appel unique hein, ce soir. Jean-Jacques Ayagon vous répond.
Non, mais Antoine est intelligent et pose des questions pertinentes. Je m'y attendais un peu. Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler à Antoine que l'intermittence n'est pas un statut professionnel. C'est un régime, c'est une branche de l'assurance chômage. Cette branche de l'assurance chômage, elle n'est pas gérée par le ministère de la Culture, ce n'est pas le ministre de la Culture qui l'organise, mais c'est l'UNEDIC dans le cadre de la solidarité interprofessionnelle. Donc ce sont les organisations représentatives des salariés et les organisations représentatives des employeurs.
L'État veille. Hein,
L'État y veille et il y veille légitimement. Pour ma part, je tiens à dire à Antoine que je suis extrêmement heureux qu'au cours des dernières années, je dois le dire, sous la présidence de François Hollande, on ait pu dégager une solution qui donne satisfaction aux intermittents et à leurs organisations syndicales et professionnelles. Il fallait tendre vers une solution, mais cette solution a nécessité l'engagement de tout le gouvernement auprès du ministre de la Culture, et notamment du ministre en charge du Travail. Si Aurélie Filippetti, ensuite Fleur Pellerin et Madame Azoulay ont pu... conclure cet accord de 2016 dans lequel les intermittents se reconnaissent, c'est parce qu'elles ont bénéficié du soutien des ministres du Travail, de Michel Sapin et de François Rebsamen. Je dois vous dire que lorsque j'étais ministre de la Culture, je me suis trouvé bien seul dans la gestion de ce dossier et que notamment le ministre qui avait la charge du Travail m'a totalement abandonné.
Son nom ?
Et c'était François Fillon.
Mais dans un gouvernement, il y a aussi le Premier ministre.
Mais il y a le Premier ministre. ministre, mais le Premier ministre...
C'est son rôle d'arbitrer. Ah.
Mais le ministre en charge du travail joue un rôle essentiel dans le dialogue du gouvernement avec les organisations en charge de l'UNEDIC. Donc pour ma part... je suis heureux de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et je regrette beaucoup de n'avoir pas pu, en 2003, bénéficier de la même solidarité gouvernementale.
Avec cet utile éclairage historique, je passe la parole à Hervé Guémard, qui est en charge de la culture pour François Fillon.
Je pense que le statut de l'intermittence doit être défendu et c'est la position que prend François Fillon. Je voudrais quand même rajouter un bémol à ce que vient de dire Jean-Jacques Ayagon, c'est que si le sujet a été réglé, c'est qu'il y a eu des crédits ouverts au budget du ministère de la Culture. Donc c'est que satisfaction a été donnée aux revendications, alors que le projet que portait Jean-Jacques Ayagon en 2003 ne donnait pas satisfaction aux plaignants. Donc il faut défendre le statut d'intermittence, mais que ce soit une vraie intermittence. Mais notamment, ça ne rémunère pas les salariés déguisés des boîtes de production, pour schématiser.
Patrick Bloch. Je ne voudrais pas que, évidemment, sur ce dossier que j'ai particulièrement suivi, déjà avec Jean-Jacques Ayagon à l'époque, et a fortiori ces dernières années, d'abord rendre hommage aux partenaires sociaux du secteur culturel, parce que l'accord historique du 28 avril 2016 a permis de tout débloquer. Rendre hommage au gouvernement, Manuel Valls et Fleur Pellerin à l'époque, puisqu'ils ont débloqué 90 millions d'euros. Sans ça, cet accord n'aurait pas pu avoir lieu. Et effectivement, c'est une pérennisation qui est tout à fait essentielle pour l'activité artistique dans notre pays. Alors, évidemment, on peut toujours dire qu'il faut lutter contre les abus, bien sûr. La permittence est un détournement de l'intermittence, mais je voudrais aussi signaler en ce domaine, et notamment faire référence au fait que les sociétés de l'audiovisuel public, souvent pointées du doigt, ont fait des efforts tout à fait conséquents ces dernières années.
Hervé Guémard, un mot.
Je peux faire une dernière remarque. C'est que la question des intermittents, comme celle des saisonniers du tourisme dans ma Savoie, puisque c'était ma première mission parlementaire quand j'ai été élu député la première fois, en fait anticipe tous les sujets du travail indépendant dans la société, d'une forme différente de travail avec la non-exclusivité du salariat qui est en train de se développer. Et de ce point de vue-là, ces deux statuts auront été peut-être précurseurs de ce que sera une forme d'exercice du travail dans les décennies qui viennent.
Merci Hervé Guémard, Patrick Bloch, Jean-Jacques Ayagon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de débattre de la culture ce soir au micro de France Inter. Je voudrais juste ajouter que s'il n'y avait pas donc dans ce téléphone sonne de représentants de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, c'est uniquement pour des raisons d'équilibre des temps de parole. C'est le CSA qui est en ce moment le grand programmateur des émissions de radio et télé. Un représentant du Front National et de la France Insoumise seront demain soir au téléphone sonne sur une autre thématique. Le journal à suivre.